Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous recevons Sœur Angélique Namaïka, à qui le HCR vient de décerner le prix Nansen. Bonne écoute. Avec son centre pour la réintégration et le développement, Sœur Angélique a transformé la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles qui avaient été chassées de chez elles et brutalisées, principalement par l'armée de résistance du Seigneur. Des femmes et des filles qui témoignent d'enlèvements, de travail forcé, de coups, de meurtres, de viols. L'approche personnalisée mise en œuvre par cette religieuse congolaise de 46 ans, qui se rend souvent dans les villages du nord-est du Congo à bicyclette, permet aux survivantes de guérir et de se reconstruire. Grâce à son prix, doté de 100 000 dollars, Sœur Angélique a espoir que ses projets avanceront plus vite.
Sœur Angélique Namaïka, vous êtes la lauréate 2013 du prix Nansen pour les réfugiés du HCR. Tout d'abord, toutes mes félicitations.
Merci beaucoup.
Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Le jour où m'avait annoncé cette nouvelle, j'étais surprise parce que je ne m'y attendais pas à cela. Et après, j'étais tellement émue de cette annonce car je me sentais un peu seule dans le travail. Et avec l'annonce, j'étais vraiment très contente. Parce que j'ai dit, maintenant, je ne suis pas seule dans ce travail. Et j'ai commencé d'abord par remercier le Seigneur qui m'a donné les forces, la force et le courage chaque jour pour réaliser les activités que je planifiais chaque jour pour les bénéficiaires. Et j'ai remercié aussi également la sœur qui a donné ce prix pour moi. Et également, je me suis réalisé que ce prix n'est pas seulement pour moi, c'est grâce aux femmes traumatisées, femmes victimes des atrocités de la LRA que j'ai reçu ce prix.
Justement, comment êtes-vous arrivé à défendre cette cause des victimes de la LRA?
Je suis arrivé à défendre cela par les différentes activités que j'avais organisées dans leur cité. Les activités de l'alphabétisation, des coupes et coutures, des arts culinaires et des chats communautaires. C'est ce que j'ai mis comme un remède pour elles afin qu'elles puissent reprendre leur vie comme c'était un peu auparavant parce qu'elles se sentaient un peu abandonnées. Elles étaient vraiment dans le besoin pour l'autofinancement de leur famille. C'est pour cela que j'avais organisé et j'avais aussi l'intention que ces activités, quand elles vont se mettre ensemble, discuter, blaguer, ça va aussi les aider à oublier les atrocités qu'elles avaient reçues. Et ça va aussi les aider à partager avec les autres leurs pensées pour pouvoir avancer encore dans une bonne manière.
Et apparemment, vous insistez beaucoup sur une approche personnalisée pour aider ces victimes. Ce sont des femmes qui témoignent d'enlèvement, de travail forcé, de viol et d'autres violations des droits fondamentaux. Mais pour une religieuse, quels sont les mots que vous utilisez pour les apaiser?
Pour moi, personnellement, je les aide toujours avec la vie de Job dans l'Ancien Testament. Lui qui avait reçu beaucoup de malheurs, et ils avaient perdu tous ses enfants, ils avaient perdu aussi le bien, même la santé. Il n'avait pas abandonné sa foi. Et comme il avait foi à Dieu, le Seigneur lui avait remis encore tout ce qu'il avait perdu auparavant. Et c'est ce que j'utilise comme un mot pour les encourager afin qu'ils ne puissent pas abandonner leur foi, vu tout ce qu'ils ont perdu, la vie humaine, leur dignité à être violée et d'autres biens matériels.
Vous-même, Sœur Angélique, vous avez été déracinée par les violences en 2009 quand vous viviez dans la ville de Dungu. Est-ce que cela vous a renforcé dans vos convictions après avoir éprouvé la douleur de devoir fuir votre propre foyer comme beaucoup de milliers de personnes en RDC?
Oui, cela m'a beaucoup aidé à me donner pour ce travail-là que je réalise avec les femmes déplacées. Car faire l'expérience d'être déplacée, ce n'est pas une expérience qu'on peut envier. C'est d'abord une expérience qui humilie la personne. Vous devenez une mendiante ou bien un mendiant. Vous demandez tout. Vous êtes vraiment comme un enfant. et vous vivez toujours dans la peur continue parce que vous ne savez pas quel jour que vous allez mourir. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à me donner à ces femmes. Pas seulement ça, c'est un appel que j'ai reçu à travers une religieuse allemande qui travaillait chez nous. Elle donnait les médicaments pour les malades. Et comme elle était seule dans ce travail-là, j'ai dit que moi aussi je vais devenir comme elle pour l'aider dans ce travail-là, afin qu'elle puisse avoir du repos. Et j'avais grandi avec cette idée d'aider les personnes. Et quand je suis entrée dans la maison de formation, j'ai commencé la formation religieuse. Dans les évangiles, j'ai tiré des passages qui m'avaient tiqué vraiment. Premièrement, Jésus est passé partout en faisant le bien. Il n'avait pas le temps de se reposer. Deuxièmement, il dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, l'exemple de la religieuse et ces deux passages évangéliques m'a donné vraiment l'amour et le courage d'aider les personnes démunies, les personnes vulnérables. Avec l'expérience encore de déplacement, cela m'a donné encore un autre courage pour continuer à aider les personnes qui sont dans les besoins.
Je ne me découragerai jamais. Je ferai de mon mieux pour leur redonner l'espoir.
Et beaucoup de ces femmes que vous aidez vous appellent affectueusement d'ailleurs mère, maman. Mais qu'est-ce qui est le plus dur dans ce combat quotidien que vous menez à Dungu, en province orientale, et les obstacles auxquels vous faites face?
D'abord, ce qui est dur pour moi, quand elles sortent de la brousse, vous sentez que c'est comme elles ont perdu vraiment leur dignité, elles ne sont pas insérées dans la société. Elles se trouvent d'abord dans les camps de déplacés, parce que tous les membres de la famille sont déplacés et on les réunifie dans la famille de déplacés. Par exemple, une fille qui sort avec deux enfants de la brousse, elle ne sait pas comment nourrir ses enfants, elle ne sait pas comment soigner les enfants et ça les rend encore plus malheureuses. Et avec les activités que nous avons placées pour leur formation, ça les aide maintenant à retrouver la force. Ce qui me rend des fois malheureuse dans ces activités, c'est quand je me retrouve seule à cause de manque de moyens pour soutenir les autres personnes qui pourront m'aider dans ces activités. Je me retrouve seule dans le travail et toutes les femmes veulent que je puisse être au même moment dans leur cité pour la formation. Et des fois, ça me laisse couler des larmes parce que je ne peux pas tout faire au même moment.
Est-ce que vous avez un appel à lancer au chef du HCR Antonio Guterres, à tous les chefs des humanitaires de l'ONU, mais aussi à la communauté internationale par rapport au sort des déplacés de Dungu, mais aussi de toute la RDC?
Je n'ai pas vraiment de rappel spécial. Je les remercie d'abord parce qu'ils ont abattu un travail énorme de dirigeance là-bas. Ni Tété et les déplacés n'allaient pas avoir les logements, ni la les NFI, au moins des choses qui les aident dans un premier temps. Même jusqu'à maintenant, à travers leurs partenaires, ils continuent encore à apporter de l'aide pour la recherche socio-économique. Alors, je vais dire encore plus que tous ceux qui ont la vocation d'aider les personnes déplacées ou réfugiées, qu'ils puissent les aider jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils veulent regagner leur sol. Parce que les urgences, ça ne dure pas trop. Maintenant, nous avons 5 ans déjà dans ces atrocités. Mais les femmes ne peuvent pas rentrer chez elles. Il y a d'autres ONG qui ferment déjà la porte parce que les urgences prennent déjà fin. Et les femmes continuent encore à vivre sans développement durable. Elles ne sont pas encore autonomes. C'est pourquoi j'invite encore les ONG, soit de développement, qu'ils puissent venir en aide de ces femmes. Elles sont nombreuses. Je fais seulement ce que je peux. Encore, il y a d'autres personnes qui ont besoin de cette aide-là, mais il n'y a personne presque pour couvrir ces besoins.
Justement, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une véritable héroïne, comme le dit Antonio Guterres?
Bon, pour cela, je ne peux pas confirmer tout à fait. Si je suis aujourd'hui connue par le monde entier, ce n'est pas grâce à mes efforts personnels, Je pense que c'est Dieu qui m'a donné cette force-là, ce courage et ces initiatives. Et surtout, il m'a donné la santé. C'est chaque jour que je me lève encore forte, malgré tout ce que je fais tout au long de la journée, pour continuer ce travail. C'est pourquoi je lui ai demandé, quand j'avais attendu cette annonce, qu'il puisse me donner le cœur simple, humble, afin que je puisse continuer ce travail jusqu'au bout.
Avec ce travail que vous faites, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous décourager et de vouloir tout abandonner?
Oui, mais pas tout à fait. Parce qu'au moment où je pense que je suis seule, par exemple pour les enfants orphelins que j'encadre, il m'arrive des fois à ne pas être capable pour payer les frais des soins médicaux pour les différentes maladies des enfants. Et des fois, on demande le montant prix de 100 dollars. Je me dis, où est-ce que je vais aboutir avec tout ce que j'ai commencé? Et des fois aussi, je reçois d'autres paroles déjà que c'est un développement durable. Les orphelins ne produisent pas. Je dis que s'ils ne produisent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il n'y a personne pour produire à leur place? Comment ils vont vivre? Et j'ai dit, je vais essayer jusqu'à ce que, au moins que je puisse sauver une vie d'un enfant. Je n'ai pas vraiment l'intention de me décourager complètement, d'abandonner. Il y a toujours la réponse. Si je me bite à telle situation, le lendemain ou bien le soir, je retrouve la solution. Une personne me porte coup de main et je continue mon travail. Je n'ai pas vraiment l'intention ou bien je n'ai pas eu le goût d'abandonner.
Vous recevrez votre prix le 30 septembre prochain à Genève. Après, vous allez vous rendre le 2 octobre à Rome où vous serez reçu par le pape François au Vatican. Avez-vous déjà pensé sur quoi portera votre message au souverain pontife?
Quand j'avais reçu cette nouvelle-là, j'étais très contente dans un premier temps. Parce que c'est l'un des personnes que je me disais, je ne sais pas comment faire pour le voir avant que je puisse mourir. Bon, j'ai imaginé seulement ça, mais je n'avais pas pris ça en compte parce que je ne pouvais pas même arriver chez lui en quelques jours. Comme je suis loin aussi de la capitale, peut-être il pouvait arriver à Kinshasa pour que je puisse le voir, mais j'avais imaginé tout simplement. Mais le jour quand j'avais appris cela, j'étais contente. Mais arrivé la nuit vers 3h du matin, quand je m'étais réveillée pour servir un enfant qui pleurait avec son lait, après avoir rentré au lit, je n'avais plus sommeil jusqu'au matin. J'ai commencé à raisonner. J'ai fait les tours partout pour faire le plaidoyer pour les attaques qui se vivent chez nous et dans 4 pays de l'Afrique. Et maintenant, l'ACCR me facilite cette occasion-là pour aller rejoindre le pape, pour aller voir le pape. Qu'est-ce que je vais lui dire? Quel mot que je vais lui dire? Et j'ai pris beaucoup de temps pour raisonner. Cela ne m'arrivait pas. Et j'ai commencé à pleurer pendant 30 minutes, sans arrêt.
Alors, vous avez 2 semaines pour y penser, alors?
Oui, j'ai eu une réponse que je vais lui dire, premièrement, je vais me jeter à ses pieds pour lui dire que le Seigneur pardonne M. Kony pour tout ce qu'il a commis comme les atrocités dans les 4 pays. Et je vais aussi demander la grâce de la conversion par l'intercession de la bienheureuse Anne-Marie. Et troisièmement, je vais demander s'il pouvait intervenir aussi pour toucher les décideurs pour qu'ils puissent mettre fin à ces atrocités parce que ça dure beaucoup. Et à la fin, je vais demander la bénédiction spéciale pour que je puisse avoir toujours continuellement le courage de ne pas abandonner le service des femmes déplacées ou des femmes qui ont connu les atrocités.
Sœur Angélique Namaïka, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup aussi pour m'avoir appelé.
Et c'est avec Sœur Angélique Namaïka au micro d'Alpha Diallo que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration d'Alpha Diallo, de Rebecca Mudio et de Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies, par podcast et sur Internet, en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.